Bonjour à tous, Didier pour un nouveau rendez-vous compte pendant lequel nous allons côtoyer chats, chouettes, grenouilles et autres libellules sans pour autant perdre notre âme, bien au contraire. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Agnès Saulnier-Chemin, vous êtes présidente de l'association des amis du musée de Daubigny.
Alors non, moi je suis...
Ça commence mal.
C'est pas grave. Non, moi je suis la directrice du musée Daubigny,
d'accord,
qui est un musée municipal.
Okay.
Et effectivement, on travaille très régulièrement avec notre association d'amis de musée, qui est une association qui nous aide dans le montage des expositions, qui nous aide aussi pour l'acquisition des œuvres. Et donc j'ai travaillé effectivement pour cette exposition avec la présidente de l'association des amis du musée Daubigny, qui est Madame Annie Couffy.
Les choses sont dites, en clair. Alors, donc, vous êtes aussi attachée de conservatoire du patrimoine.
Oui, c'est
ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce musée Daubigny, qui est à Auvers-sur-Oise, qui n'est pas forcément très connu, et pourtant, il doit l'être.
Je vous remercie. Oui, alors, c'est un musée qui est situé en plein centre d'Auvers-sur-Oise, qui est un musée qui a été créé en 1987 par des passionnés d'art, une association de passionnés. Qui est un musée qui est consacré à Charles-François Daubigny, qui est le premier peintre à être venu peindre à Auvers en 1860. Et qui est un peintre très important pour l'histoire de l'art, parce qu'il a influencé notamment les peintres impressionnistes, notamment beaucoup Monet. Il a aussi beaucoup influencé Van Gogh, qui en parle énormément dans ses lettres, ça on le sait peu. Donc, quand Van Gogh arrive à Auvers, il est en fait très imprégné par Daubigny. Et Daubigny a donc vécu 18 ans à Auvers-sur-Oise. Donc, c'est le peintre qui est resté le plus longtemps à Auvers et qui a créé toute une colonie d'artistes autour de lui.
Le slogan d'Auvers, village d'artistes.
Exactement. Ça vient de Charles-François Daubigny, en fait. Qui a réuni autour de lui des illustres, hein, comme Berthe Morisot, par exemple, Camille Corot, et puis plein d'autres peintres comme Delpy, des artistes qui sont des artistes très intéressants pour l'histoire de l'art, d'autres qui sont moins connus, mais quand même tout aussi talentueux et qu'on essaye de faire découvrir ou redécouvrir au public au musée. Donc on a un fonds permanent qui est montré tout le temps sur Charles-François Daubigny au musée. Et puis, on fait deux expositions temporaires par an sur des thèmes variés.
Alors, depuis quelques années, le musée Daubigny est musée de France.
Oui.
C'est bien, c'est une belle reconnaissance.
Ah oui, c'est très important pour nous. C'est une belle reconnaissance, mais ce n'est pas seulement une reconnaissance. C'est aussi important parce que ça nous permet d'obtenir des subventions de l'État, ce qu'on n'avait pas avant. Ça nous permet aussi d'avoir la confiance des grandes institutions nationales pour avoir des prêts, notamment d'œuvres importantes. Donc pour nous, non, c'est une reconnaissance qui est assez fondamentale pour le développement du musée.
Bien sûr. Alors, village d'artistes, y compris au cimetière, puisque je sais que Van Gogh y est enterré, et Daubigny aussi.
Non.
Non ? Ah,
non,
bah alors écoutez, j'ai tout faux,
c'est
décidément.
C'est pas grave, c'est pas grave.
D'accord.
Non, Daubigny, il est au Père Lachaise.
Ah, d'accord. Pas mal non plus.
Oui, pas mal non plus, mais bon, il y a d'autres illustres au cimetière d'Auvers. Il n'y a pas que Daubigny. Il y a des peintres comme Léonie de Bourges, qui est une peintre aussi qui est importante, qui était une de ses élèves. Il y a le peintre Corneille aussi, très important.
Qui est exposé dans votre exposition dont on va parler
tout à
maintenant.
Fait. Voilà. Tout à fait.
Alors justement, au XVIIe siècle, Descartes estimait que les animaux n'avaient pas d'âme. Madame, vous êtes commissaire de cette exposition au musée Daubigny, qui se tient jusqu'au 21 septembre 2025, et dont le titre même semble répondre à notre célèbre philosophe. Quel est le titre de cette exposition ?
Alors, l'exposition, elle s'appelle « Âme animale », parce que, il faut voir l'exposition pour vraiment le comprendre, mais effectivement, on présente des animaux, notamment les animaux d'un artiste dont on va parler, je pense, qui s'appelle Koji Ikuta, et qui sont des animaux dont la ressemblance avec l'homme est frappante. Et justement, c'est un artiste qui a voulu représenter les émotions humaines par le biais des animaux. C'est ce qui a donné le titre de l'exposition.
Alors, vous avez un bestiaire exceptionnel, je crois.
Oui. Au musée, on a un bestiaire exceptionnel. Alors, en fait, cette exposition, elle est conçue un petit peu comme un hommage, parce qu'on va fermer l'année prochaine pendant 2 ans pour travaux. Donc c'est la dernière exposition avant la fermeture et on a conçu cette exposition un peu comme un hommage au travail qui a été fait depuis plus de 25 ans sur l'art animalier. Parce qu'en 2000, on a reçu une exceptionnelle collection de 200 chats qui vont de la sculpture du 19e siècle jusqu'à l'art contemporain, mais en passant vraiment par des artistes illustres. C'est une collection qui était très riche au départ et donc qui a été nourrie au fur et à mesure des années en s'éloignant de la figure uniquement du chat. Ce qui fait que désormais, on a une collection d'art animalier qui est particulièrement importante.
Et dans toutes les réalisations plastiques, si on peut dire, c'est bien de la gravure que d'autres formes.
Ah oui, tout à fait, dans toutes les techniques.
Voilà.
Beaucoup de gravures, mais on a aussi des œuvres sculptées et des céramiques qui sont très, très belles. On a toutes les techniques.
Des grands maîtres de la céramique, comme par exemple René Lalique. Quand même, c'est pas rien.
Non, c'est pas rien.
Franchement. Alors, déjà, l'affiche de l'exposition est fabuleuse. Fabuleuse dans les deux sens du terme.
Merci.
Elle est magnifique. Et en même temps, elle fait un peu penser aux fables, aux contes, un petit peu à toutes les légendes sur ces animaux de la nuit.
Oui.
Voilà.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle représente, cette affiche?
Alors, l'affiche de l'exposition, effectivement, c'est une œuvre qui a été choisie avec soin. C'est un grand hibou qui s'apprête à s'envoler. C'est une œuvre de Koji Ikuta. Koji Ikuta, c'est un artiste contemporain, qui est encore en vie, qui est un grand graveur en manière noire. C'est un japonais. Et l'année dernière, en 2023, le temps passe vite, on a reçu un don de 90 gravures de Koji Ikuta de la part de Jean-François Chassin, qui était l'un des grands défenseurs de la gravure en France, et qui avait choisi de léguer sa collection de Koji Ikuta au musée d'Aubigny, et il avait fait ce choix en partenariat avec l'artiste. Donc on était très touchés qu'il nous ait choisi, nous. Et on est le seul musée en France à avoir l'extrême privilège de présenter son travail. Donc voilà, c'était une manière de mettre en lumière cette collection.
Alors je crois que l'affiche qui représente ce hibou prêt à s'envoler s'appelle « Le dieu du vent ». C'est bien ça?
Tout à fait, oui.
Donc il y a toujours ce côté un petit peu aussi référence à quelque chose qui est divin dans les animaux.
Oui.
Non seulement ils ont une âme, mais en plus c'est presque des animaux liés à la mystique.
Oui. Alors Koji Ikuta, il a une œuvre donc essentiellement constituée d'animaux. En particulier, il travaille beaucoup sur la représentation de la chouette, donc du hibou, mais aussi, enfin surtout de la chouette. Pour lui, donc, c'est une manière effectivement de représenter les sentiments humains, parce que le faciès de la chouette ressemble beaucoup au faciès humain. C'est flagrant quand on voit les œuvres de Koji Ikuta. Mais c'est aussi une manière pour lui effectivement de représenter la déesse des forêts, la déesse de la nuit, une forme de maîtresse de la sagesse aussi. C'est des œuvres qui sont très philosophiques en réalité. Et quand on les regarde, on est tout de suite imprégné d'une sensation de plénitude. Enfin, c'est une œuvre qui invite vraiment à la méditation. C'est étonnant, oui.
Y compris des fois avec une petite pointe d'humour, parce que vous exposez aussi une toile, une œuvre qui s'appelle, une gravure qui s'appelle « Des frères chouettes ».
Oui.
Trois frères. Alors chouette, voilà, dans les deux sens du terme. Très, très belle image aussi de fraternité, si on peut dire.
Oui, oui. Voilà. Oui, c'est trois bébés chouettes. Et en fait, ils jouent beaucoup aussi sur... c'est des œuvres, effectivement, où il y a aussi beaucoup d'humour dans son travail. Il s'amuse notamment beaucoup de la ressemblance entre la chouette et le chat. Donc, il fait aussi des œuvres où il met les deux animaux côte à côte. Et au bout d'un moment, on ne sait plus du tout qui est la chouette et qui est le chat. On est perdu. Et il crée aussi des œuvres d'animaux hybrides entre la chouette et le chat. C'est très beau. C'est drôle, mais c'est en même temps assez touchant.
Oui, et parfois même un petit peu effrayant. sur certaines. Alors justement, parce que cet artiste travaille beaucoup ce qu'on appelle la manière noire, donc ça donne des résultats tout à fait prodigieux. Et qu'est-ce que c'est que cette technique ?
Alors, c'est une technique qui est très complexe, la manière noire, et qui est très longue, qui a été inventée au XVIIe siècle en Europe pour les besoins de la reproduction des peintures. Mais qui a vite été mise de côté parce que justement elle est trop chronophage. Alors ça consiste, la manière noire, je vais essayer de ne pas être trop longue pour vous l'expliquer, ça consiste à prendre une plaque de cuivre, donc à la cribler à l'aide d'un berceau de plein de petits trous. Donc s'il y a plein de petits trous sur la plaque, eh ben, il y a aussi plein de petits reliefs. Et l'artiste va, à l'aide d'un outil qui s'appelle un brunissoir, qui est une toute petite pointe, il va venir faire son dessin en abaissant plus ou moins les reliefs sur la plaque. Et plus il abaisse les reliefs, plus il ira vers le blanc. C'est-à-dire que si l'œuvre était ancrée avec tous les petits trous, elle serait d'un noir profond. Et donc plus il va abaisser, plus il va dessiner en appuyant sur la plaque, plus il va aller vers le blanc. Et tout le talent de l'artiste en manière noire, c'est d'aller du noir profond, intense, jusqu'au blanc très pur, en passant par une infinité de nuances de gris. Et c'est cette infinité de nuances de gris qui va donner les effets de lumière. Et c'est ces effets-là qui donnent la précision extrême dans la représentation, notamment des poils, des plumes, de la texture, de la matière. Et c'est vraiment la manière noire qui permet ce rendu-là. C'est une technique qui permet, mieux que toutes les autres techniques de gravure, qui permet vraiment de restituer la matière.
Et c'est très impressionnant.
C'est très impressionnant.
Par exemple, vous exposez un lapin tout blanc dans un jardin fleuri, mais c'est plus, encore plus précis qu'une photographie, on dirait. Plus émouvant, plus profond.
Oui. Ce lapin, bon, c'est une de ses œuvres les plus belles, à mon sens. Et ce qu'on voit vraiment, si vous regardez l'œuvre de très près, en fait, il y a ce lapin tout blanc en premier plan. Et puis juste derrière, il y a un lapin tout noir qui est tout caché dans les herbes. Et il y a aussi une pointe de couleur, parce que la manière noire, ce ne sont pas que des œuvres en noir, ce sont aussi des œuvres en couleur.
Alors, comme vous l'avez dit, c'est extrêmement chronophage pour l'artiste.
Oui.
Bah, c'est même une patience, quelque chose de très méticuleux. J'imagine qu'il a un dessin au départ. Il a déjà reproduit ce qu'il veut sur le papier avant de le graver, j'imagine. Ou...
Alors, ben, moi, quand il m'a fait part de... Parce qu'il y a très peu d'écrits sur Koji Ikuta. Donc, pour réaliser le catalogue et l'exposition, on a beaucoup échangé ensemble par mail. Parce qu'il est au Japon et moi, en France, on ne parle pas la même langue. Mais il ne m'a pas fait état de dessin préparatoire. C'est ça qui est très étonnant. Alors, je pense que oui, quand même. Je pense que oui, quand même, il y a un dessin préparatoire, mais je n'en suis pas sûre à 100%. Il y a des artistes qui sont vraiment extrêmement doués avec l'outil. Qui ont vraiment le dessin en tête. Mais probablement quand même, au moins pour certaines, il y a un dessin préparatoire, parce que c'est tellement précis qu'on a du mal à imaginer autrement.
Est-ce que cet artiste japonais est l'un des seuls à pratiquer cette manière noire ou...
Alors, il y en a d'autres. Alors, lui-même, en fait, il s'inspire d'un artiste japonais qui s'appelle Yozo Hamaguchi, qui est un artiste qui est décédé en l'an 2000, qui était l'un des très grand représentant de la manière noire au Japon. Non, il y en a beaucoup d'autres. Il y a un artiste aussi qui est plus connu d'ailleurs que Koji Ikuta, qui s'appelle Watanabe, dont on retrouve des œuvres plus régulièrement quand même en manière noire, qui n'est pas du tout dans le même style. C'est pas réservé d'ailleurs aux Japonais. On a beaucoup d'artistes japonais, mais c'est pas réservé aux artistes japonais. Il y a aussi des artistes en France qui pratiquent la manière noire. Mais ça reste une technique assez rare.
Oui, bien sûr, parce que ça prend beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent. Et puis voilà.
Exactement.
Oui. Alors, bien sûr, vous l'avez déjà dit, il y a les chouettes, il y a quelques lapins, mais aussi les chats. Et je crois que vous avez beaucoup de chats au musée d'Aubigny.
Oui.
Et des chats de toutes sortes.
Oui, tout à fait. Alors, en l'an 2000, donc ça, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je vais un peu préciser les choses. On a reçu donc un don de 200 chats de la part d'un homme qui s'appelait Monsieur Lavèche de Chancy, qui était
speaker
à la
télévision.
À la radio. Oui, d'accord. Tout à fait. Et donc, son métier lui a permis de rencontrer beaucoup de personnalités du monde artistique et intellectuel parisien. Notamment, il était très ami avec Jean Cocteau.
Qui dessinait des chats aussi.
Ah oui, qui était un amoureux des chats. Et il était aussi ami avec Jeanne Paul. Et puis, au fur et à mesure du temps, il a voulu constituer une collection d'art. Il était passionné des chats, donc il a voulu constituer une collection sur le thème du chat. Et en fait, c'est une collection qui est passionnante parce qu'on se rend compte que énormément d'artistes ont travaillé, ont représenté le chat, au moins un moment dans leur carrière. Tout simplement parce que c'est un animal qui est extrêmement gracieux, qui a plein de caractéristiques, de caractères aussi, et des mouvements qui sont toujours assez gracieux. Et puis, c'est un animal qui peut rester très longtemps immobile. Et donc, ça a cette facilité-là aussi pour l'artiste. Et puis, alors, quand cet homme, M. Lavèche de Chancy, a voulu léguer sa collection à une institution, il a choisi le musée d'Aubigny parce que parmi les fondateurs du musée, il y avait M. Bernard Vercruis.
Notre ami Bernard,
voilà.
que nous avons reçu déjà plusieurs fois à ce micro.
Qui est donc un peintre, un peintre naïf, un peintre animalier.
Qui habite au Vert.
Qui habite au Vert, oui, et qui est un amoureux des chats. Et donc il peint notamment beaucoup les chats. Et donc M. Lavèche de Chancy s'est dit que sa collection serait entre de bonnes mains. Donc ça tient aussi à ce genre de rencontre, en fait.
Bien sûr. Je crois 200 pièces qui vous ont été léguées.
Oui.
Des toiles, des dessins, des faïences, des porcelaines, des bronzes.
Oui.
Donc vous l'avez dit, le chat est un sujet assez traité par les artistes, mais aussi par les écrivains, bien sûr. On peut penser à Baudelaire, qui aimait beaucoup les chats.
Les amoureux fervents et les savants austères aiment également dans leur mûre saison. Les chats puissants et doux orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. L'érèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres, s'ils pouvaient aux servages incliner leur fierté.
Alors, il y a beaucoup de représentations de chats. Quelles sont peut-être celles que vous préférez ?
Alors, y en a beaucoup que j'aime énormément. Hein. Oui. Mais parmi les pièces importantes, alors il y a d'ailleurs un tout petit chat de Cocteau, on en parlait tout à l'heure, et qui est un chat superbe parce que donc c'est assez récurrent, les chats chez Cocteau. C'est pas une pièce exceptionnelle parce qu'il l'a représenté souvent finalement ce chat, mais elle est super parce que c'est une œuvre, c'est un petit chat en quelques traits de crayon et c'est magnifique ce chat.
Griffonné au crayon, comme vous le dites, sur une table, enfin sur une nappe, j'imagine.
Non.
Souvent.
Non. Non, en fait, c'est griffonné, mais j'ai cru longtemps que c'était sur une nappe parce que l'œuvre est encadrée.
De restaurant,
donc,
souvent.
Mais oui, non. En fait, c'est griffonné à l'arrière d'un programme d'émission de radio. Et d'accord. Comme donc il était en train d'être sans doute interviewé par Monsieur Lavèche de Chancy, notre collectionneur, et derrière le programme de l'émission, paf, il lui a fait un petit chat en quelques traits, je trouve ça fabuleux comme histoire. Et donc cette œuvre, elle est très liée à cette collection. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Et puis il y a aussi plusieurs œuvres parmi nos sculptures qui sont superbes, notamment...
Basse-tête, peut-être.
Oui,
la porcelaine
bleue de Théodore Deck, qui est une œuvre magnifique. On a aussi un petit...
Alors là, je me permets, petit clin d'œil aussi à Bernard Vercruis, qui a représenté lui aussi... La déesse Bastette, mais sur fond de graffiti sur les pyramides.
Oui, tout à fait, magnifique. Tout à fait, qui est magnifique.
Ouais.
Et puis, je pensais aussi à une petite sculpture de Barry, et donc Barry qui est l'un des plus grands sculpteurs du 19e siècle, qui est reconnu pour du coup s'être éloigné des canons de la représentation animale à l'époque et pour... avoir représenté les animaux de manière extrêmement précise en se documentant beaucoup, notamment au Jardin des Plantes. Donc, c'est des représentants de la statuaire monumentale. Donc, il y a Barry, il y a aussi Emmanuel Frémiet. Et nous, on a des œuvres qui sont toutes petites, en fait, mais qui sont du coup très émouvantes de ces grands artistes.
Alors, il y a une toile que j'aime beaucoup, qui s'appelle « La belle au chat ».
Ah oui.
Magnifique.
Oui.
Et un peu sensuelle, on va dire.
Oui.
Quand même. Très belle.
C'est une œuvre de Michao Kono, qui est un artiste japonais qui arrive au Japon donc à la même époque que Fujita, donc dans les années 1910. Et à cette époque, les artistes japonais, on ne le sait pas, mais ils se réunissent en fait entre eux. Ils constituent une forme d'association pour s'entraider. Et Michao Kono, lui, il a un style qui est très particulier parce qu'il représente donc ces femmes nues avec un teint très, très blanc de porcelaine. Si on s'approche de l'œuvre, on voit que l'œuvre, elle est un peu craquelée. Est complètement craquelé même. Et ça, ce n'est pas un défaut d'usure, mais c'est l'artiste qui utilisait un mélange d'œufs et de talc avec sa peinture, et ça donnait cet effet craquelé, et ça accentuait le côté poupée de porcelaine de ses nus. Et puis cette œuvre-là qu'on a, nous, elle est assez originale, parce que le nu est représenté cette fois-ci avec un chat. Et le regard du chat et de la femme sont tout à fait similaires, donc il y a un peu d'humour aussi dans cette œuvre. Michao Kono, il faisait des œuvres qui s'accordaient très bien avec les intérieurs art déco, c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de succès.
Vous avez aussi un Fujita qui s'appelle Le Rêve.
Alors oui.
Donc c'est un peu le même thème, quoi. Une femme nue et des chats.
Oui, c'est un peu le même thème, ça se ressemble beaucoup, c'est un peu un pendant. Mais alors cette œuvre-là, je fais juste une précision. On a juste deux prêts dans l'exposition. Tout le reste, c'est nos collections. Mais le Fujita, il n'est pas à nous. C'est un prêt qu'on nous a consenti pour l'expo. Mais qui allait tellement bien avec l'exposition qu'on était très, très heureux de présenter cette œuvre. Et donc, effectivement, c'est une œuvre de Fujita qui est une œuvre importante parce que c'est le pendant d'une grande œuvre qui s'appelle Le Nu à la toile de Jouy, qui est présentée au Musée des arts décoratifs de la ville de Paris. Et on y voit une femme nue, allongée, en train de dormir. Au-dessus d'elle, il y a un dais de toile de Jouy sur lequel est représenté son rêve. Donc des enfants en train de jouer, des enfants en train de s'embrasser, des ruines, c'est très beau. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a plusieurs animaux différents qui sont en train de la regarder. De manière très, très curieuse. Et donc, la lecture de cette œuvre qui est assez intéressante, c'est que Fujita, il considérait que le chat, c'était un peu son double. Oui. Et donc, quand le chat regarde cette femme nue de manière très intéressée, on peut imaginer que c'est Fujita qui se représente lui-même.
Voilà.
C'est assez marrant.
Alors, nous sommes toujours bien sur Rendez-vous Compte et nous recevons Madame Agnès Saulnier-Chemin, qui est commissaire de l'exposition Âme humaine, au musée Âme humaine, Âme animale, vous voyez, le lapsus, au musée d'Aubigny. Alors, il est temps pour nous d'écouter une chanson des Pink Floyd, que j'aime beaucoup évidemment, qui s'appelle Lucifer Sam. Premier album des Pink Floyd, 1967. Et Lucifer Sam, c'est le chat de Syd Barrett, l'un des musiciens de Pink Floyd. Et en fait, Lucifer, Sam, siamois, un chat siamois, un peu lié, comme on le disait, aux forces un petit peu obscures, qui aussi tracassaient beaucoup l'esprit de Syd Barrett. On écoute quelques notes, en tout cas.
Something I can't explain.
Voilà, nous sommes toujours bien à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Madame Agnès Saulnier-Chemin, commissaire de l'exposition Âme animale au musée de Daubigny. Alors, vous avez aussi quelques productions, quelques œuvres de Corneille, l'artiste Corneille. Alors, par exemple, un très beau tournesol.
Oui.
Mais, bien sûr, au vert, tournesol, Van Gogh.
Oui, cette œuvre de Corneille, donc c'est un hommage direct à Auvers-sur-Oise, où il est, où il a passé beaucoup de temps, où il est enterré auprès de Van Gogh, qu'il admirait énormément. Et cette salle, elle est importante pour nous. La salle où l'on présente les Corneilles, c'est une salle où on a mis en regard les peintures de Corneille de celles de nos artistes naïfs, parce que le musée Daubigny compte dans ses collections près de 600 œuvres naïves, ce qui fait de nous l'un des musées les plus pourvus en France, après le musée de Nice et le musée de Laval. Donc c'est une autre de nos spécificités, après cette collection de chats. Là encore, c'est grâce à M. Bernard Vercruis, qui est artiste naïf et qui a constitué ce fonds, qui est un fonds particulièrement intéressant parce qu'il témoigne notamment du caractère international du mouvement de l'art naïf. Et donc, on met en regard les œuvres naïves avec celles de Corneille. Mais ce n'est pas innocent, parce que donc Corneille est l'un des fondateurs du mouvement Cobra.
Cobra, voilà.
Qui est né donc après...
Encore un animal, mais sauf que c'est un acronyme en quelque sorte.
Oui, voilà. Pour Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, du nom des villes d'origine des fondateurs du mouvement. Et donc le mouvement Cobra, il est né de cette un peu d'une révolte contre cette guerre entre la figuration et l'abstraction dans l'art. Et ils ont cherché, les artistes du mouvement Cobra, ils ont cherché de nouvelles formes de représentation, de nouvelles références artistiques, notamment dans les références africaines, les références magiques, et aussi dans l'art naïf. Et ça, on le sait peu. Et c'est flagrant dans les œuvres qu'on met aux côtés de celle de Corneille.
Alors, art naïf, ça peut sembler péjoratif, mais en fait, tout simplement, ça vient du latin qui veut dire inné, naturel.
Oui.
Donc, les artistes qui représentent la nature telle qu'ils la voient, qu'ils la ressentent.
Oui, c'est absolument pas péjoratif. Les artistes naïfs, ce sont des artistes autodidactes.
Autodidactes, voilà.
Qui donc représente, donc ça se caractérise par des grands aplats de couleurs, par l'absence de règles liées à l'art, c'est-à-dire l'absence de la perspective très juste, de la profondeur très juste aussi. Mais c'est tout le temps des œuvres qui nous amènent dans un univers qui est absolument fabuleux, quel que soit l'univers d'ailleurs. C'est très diversifié, l'art naïf. Et voilà, et donc là on met à l'honneur donc trois artistes naïfs. Donc Bernard Vercruis, bien sûr, on lui rend hommage avec une œuvre très belle qui représente le grand ours chat, c'est-à-dire le panda, ça se dit comme ça en chinois. Une œuvre de Antun Bajunek, qui est un grand artiste naïf croate, et une œuvre de Louise Gattet, qui est une des grandes représentantes aussi de l'art naïf en France.
Voilà, notre émission se termine déjà. Alors, je rappelle que votre exposition Âme animale durera jusqu'au 21 septembre 2025 au musée de Daubigny, facile à trouver, à Auvers.
Oui, facile à trouver dans la rue de la Sansonne,
voilà.
Plein centre-ville.
Manoir des Colombières, évidemment, pour rester un petit peu dans les oiseaux. Alors,
vrai.
Vous avez aussi programmé de très nombreuses et passionnantes animations. Alors, comment peut-on en avoir le programme? Parce qu'on va en détailler quelques-unes, mais...
Oui.
Comment on peut avoir
Alors, pour avoir
les
le
infos.
Programme, c'est très simple. Il faut se rendre sur le site internet du musée Daubigny, museedaubigny.com.
En un seul mot, musée Daubigny.
Vous allez dans la rubrique programme. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Et effectivement, pour cette exposition, en fait, l'art animalier, c'est vraiment parfait pour expliquer l'art, notamment aux enfants. C'est une porte d'entrée sur l'histoire de l'art qui est superbe. Donc ça a donné des ailes, hein, sans mauvais jeu de mots, à notre service de médiation culturelle qui a produit une programmation extrêmement dense pour cette exposition et extrêmement intéressante pour tous les âges, pour tous les goûts, que ce soit des enfants très petits, aux ados, aux personnes adultes, pour tout le monde. Et puis on va faire une très belle soirée pyjama aussi pour les enfants le vendredi 13 juin à 19h.
Et beaucoup d'ateliers pour les enfants ou des ateliers pour les adultes aussi, visite familiale aussi, et puis même une enquête.
Oui. Voilà. Oui, oui, on a plein de choses. Ça change toutes les semaines. Il y a une programmation très riche.
Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, bon succès à l'exposition, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de le souhaiter.
Merci.
Ça marche
très
bien. Et surtout, connectez-vous sur le site du musée de Daubigny pour avoir toutes les informations sur les ateliers et activités proposées et pour réserver aussi, je crois.
Oui. Et alors, pour réserver, il faut nous envoyer un mail ou nous appeler. Ce n'est pas directement sur le site.
D'accord. Vous aurez quand même les liens.
Voilà.
Merci à vous. C'était Didier sur IDFM pour un nouveau Rendez-vous Compte Culture. À la semaine prochaine, même heure, même adresse. Rendez-vous compte.